15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au mal de dos, le mal du siècle selon certains experts. Pourquoi a-t-on de plus en plus mal au dos? C'est le premier motif d'arrêt maladie en France avec notre invité, le professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous ferons le point sur les traitements évidemment, mais vous verrez qu'aujourd'hui c'est prouvé, le meilleur traitement c'est le mouvement. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui il va nous parler des enfants hyperactifs, comment les dépister et surtout les prendre en charge. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des bienfaits des yaourts, mais vous verrez que pour qu'ils nous fassent du bien, il faut bien les choisir. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de la sexualité de nos parents. Pourquoi est-ce si tabou? Pourquoi entrevoir ce qui se passe dans leur chambre à coucher peut même en choquer certains durablement?
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions sur le répondeur d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. On écoute donc la première question, c'est celle de Josiane, 50 ans.
Bonjour, je viens de recevoir mon test de dépistage pour le cancer du côlon. Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que je n'ai jamais vu de sang dans mes selles. Merci beaucoup.
Bon alors Jimmy, on va refaire un petit point quand même sur le pourquoi de ce test finalement généralisé aujourd'hui pour le cancer du côlon chez tous les gens qui ont plus de 50 ans. Hein. C'est quoi l'intérêt de le faire?
Eh bien tout simplement parce que près de 95% des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans. Et l'idée de ce dépistage, c'est de, lorsqu'on a 50 ans jusqu'à 74 ans, tous les deux ans, de faire dans le cadre du programme national de dépistage organisé, un test de dépistage du cancer colorectal qui permet de rechercher du sang dans les selles.
Et oui, donc ce qu'elle vient de dire Josiane, elle dit que cette recherche de sang dans les selles, pour elle, il n'y a pas d'intérêt puisqu'elle n'en a jamais vu.
Alors, on ne l'a jamais vu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'échelle microscopique. De la même façon, lorsqu'on fait parfois une bandelette urinaire, on recherche du sang qui n'est pas visible lorsque vous faites pipi, et ben pour le caca, c'est exactement la même chose. Et ça peut être révélateur soit d'un cancer ou d'un polype. À partir du moment où le test est positif, on organise ce qu'on appelle une coloscopie qui permettra de vérifier qu'il n'y a pas de cancer. Et puis, si jamais il y a un polype, on l'enlève, on l'analyse. Et ce qui permet donc parfois d'avoir un traitement précoce de cette maladie parce que plus tôt on traite un cancer, plus on a des chances de guérison et de survie derrière.
Bon, et Jimmy, je crois qu'il faut quand même rappeler aussi que ce test caca, comme on dit, là, on nous demande de le faire à la maison, mais il a changé récemment, hein, c'est moins compliqué, moins dégoûtant si on veut.
Oui, exactement, depuis 2015, on a un nouveau test qu'on appelle un test immunologique. Alors, il est plus simple, parce que finalement, on n'a pas besoin de collecter les selles sur plusieurs jours, c'est simplement sur un jour et on fait un prélèvement de selles. Et puis, on a un test qui est plus performant, il est beaucoup plus sensible, donc on arrive à diagnostiquer plus de lésions de façon un peu plus précoce, et par conséquent, on est un peu plus efficace.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Isabelle, on l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je peux vous appeler Jimmy, docteur? Alors, écoutez, je vous appelle aujourd'hui parce que mon mari a 45 ans. C'est vrai qu'il y a un certain temps, on considérait qu'il était un peu allergique au lactose. Il pouvait plus boire de lait. Mais j'ai l'impression que ça devient de pire en pire et que dès quelque chose a du lactose, il est vraiment souffrant. Donc, je voulais savoir s'il y a partir d'un certain âge et si, de façon générale, l'intolérance au lactose augmentait.
Alors, d'abord, Jimmy, avant de répondre à cette question, expliquez-nous précisément, c'est quoi d'ailleurs l'intolérance au lactose?
L'intolérance au lactose, c'est un problème de digestion du sucre, donc qui est le lactose qui est principalement contenu dans le lait, qui vient d'un déficit en lactase. La lactase, c'est l'enzyme qui permet de dégrader le lactose. Et par conséquent, lorsqu'on n'a plus de lactase, le lactose s'accumule dans le tube digestif, il fermente et il peut être responsable de symptômes digestifs que son mari semble souffrir. Et d'ailleurs, elle peut m'appeler Jimmy, il n'y a aucun problème.
D'accord, très bien. Alors, c'est vrai, il faut bien suivre hein, quand même le lactase et le lactose. Le lactose, c'est le sucre, le lactase, c'est l'enzyme qui sert à le dégrader. Et ces symptômes digestifs, ils sont vraiment si importants que ça? Parce que bon, là, elle dit, il n'est pas bien, il n'arrive pas à digérer, mais on ne sait pas trop. Est-ce que c'est juste, il ne digère pas bien ou c'est des vrais symptômes handicapants, je veux dire?
Alors, ça varie d'une personne à une autre, et puis on n'exprime pas tous une allergie de la même façon. Le lactose, lorsqu'il s'accumule, donc devient fermenté par le tube digestif et peut être responsable de troubles du transit très importants avec des diarrhées plus ou moins abondantes et d'autres douleurs abdominales, des gaz, des ballonnements. Donc on peut avoir des symptômes très invalidants dans la vie, comme finalement juste quelques ballonnements qui peuvent ne pas être trop gênants.
Et ça peut arriver parce que là, elle dit que son mari, là, je crois, plus de 50 ans, ça peut arriver tout d'un coup, comme ça, à 50 ans, on ne digère plus le lait, quoi.
Alors, ça touche souvent les enfants lorsqu'il y a une vraie intolérance au lactose, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure du vieillissement, l'activité de la lactase diminue parce qu'on s'adapte à notre consommation. Lorsqu'on est enfant, on consomme beaucoup de lait, donc il faut beaucoup de lactase, et puis au fur et à mesure, on en a un peu moins. Donc on peut en avoir lorsqu'on commence à vieillir, mais ça peut toucher tout le monde. Et puis il y a certaines maladies qui peuvent prédisposer à l'intolérance au lactose, comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, qui s'accompagne parfois de ce trouble.
Et donc ces symptômes, ils arrivent directement après avoir bu du lait, quoi. C'est tout de suite, hein, on a ces symptômes digestifs.
Alors pas immédiatement, souvent ça survient entre 30 minutes et 2 heures après l'ingestion de la nourriture contenant du lactose, et c'est d'autant plus rapide qu'on a pris un produit laitier qui contient beaucoup de lactose et qu'on a bu très vite. Donc classiquement, un petit verre de lait ou un yaourt, on en parlera tout à l'heure, n'aura pas le même impact qu'un repas riche avec beaucoup de fromage, de la crème, un dessert. Et puis là, forcément, on peut avoir des symptômes digestifs beaucoup plus rapides, mais globalement, retenez entre 30 minutes et 2 heures pour les symptômes.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Isabelle qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des enfants hyperactifs. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur Francis Berenbaum, rhumatologue avec qui on fait le point aujourd'hui sur le mal de dos. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le rhumatologue Francis Berenbaum, avec qui on va parler du mal de dos. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des enfants hyperactifs, les TDAH, je crois. Qu'est-ce que c'est ?
Alors exactement, les TDAH, donc le T, ça veut dire trouble. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, c'est un ensemble de symptômes. Le D, le A, c'est le déficit de l'attention. Et ça s'accompagne parfois d'une hyperactivité, donc il peut ne pas y en avoir. Il faut retenir qu'il y a trois axes principaux dans cette pathologie. Le premier, c'est le déficit de l'attention ou d'inattention. Donc c'est un enfant qui est incapable de se concentrer sur une tâche plus de quelques minutes, un enfant qu'on pourrait distraire assez facilement, qui serait plutôt rêveur, absent, dans sa bulle, qui n'écoute pas, ailleurs, dans les nuages, qui pense à autre chose, qui a la tête en l'air. Donc ça, c'est le premier des caractéristiques. La deuxième, c'est l'hyperactivité. Un enfant qui est agité, mais de façon non contrôlée et incessante.
C'est pas juste un enfant qui bouge, quoi.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Et souvent, les termes qui reviennent quand les parents décrivent ces enfants, c'est un enfant qui court partout, qui grimpe, qui saute, qui rampe, qui bouge, qui se déplace, qui veut pas bouger, qui monte, qui descend. Un enfant vraiment qui est hyperactif. Ensuite, c'est marqué par une impulsivité. L'impulsivité, c'est un enfant qui n'arrive pas à apprendre de ses erreurs. C'est un enfant qui serait plutôt intolérant à la frustration, qui agit sans même penser, qui serait moins satisfait lorsque on lui offre quelque chose, qui est moins sensible aux conséquences de ses actes que les autres enfants et qui aurait un contrôle de soi plutôt inadéquat. Ces symptômes, on les diagnostique avant 12 ans et lorsqu'ils s'installent sur au moins 6 mois, et c'est comme ça qu'on a le diagnostic.
D'accord, et est-ce que c'est fréquent? Parce que bon, ça fait tout un ensemble de symptômes qui paraissent, qui font quand même un peu peur. Hein, mais
Alors oui, c'est fréquent. Dites-vous que c'est un enfant sur 20. Ça veut dire que dans chaque classe, il y a un enfant qui a un trouble de l'attention à un degré plus ou moins variable. Et on sait que cette pathologie est en augmentation du fait notamment des perturbateurs endocriniens. Je vous cite juste une petite étude coréenne qui s'est rendue compte que plus les enfants dans les urines avaient des perturbateurs endocriniens qu'on appelle les phtalates, plus ces enfants étaient hyperactifs. Donc on sait que c'est peut-être l'avenir vers lequel on va devoir se tourner. Donc on sait qu'il y a un lien évident et que cette pathologie est une part héréditaire, mais que l'environnement peut jouer.
Alors comment on fait le diagnostic justement ?
Alors on ne fait pas de diagnostic avec de prise de sang, ni d'IRM, ni quoi que ce soit. Il faut aller voir un neuropsychiatre ou un neuropédiatre qui fait le diagnostic avec des tests psychomotriques et des tests neuropsychologiques. Et à partir de ce moment-là, sur un faisceau d'éléments, on fait le diagnostic de cette pathologie pour proposer ensuite une prise en charge.
D'accord, et justement, c'est quoi cette prise en charge ?
Elle porte sur trois choses. La première, souvent qui est médiatisée, c'est les médicaments.
La Ritaline.
Exactement, entre autres la Ritaline, sauf que c'est celle qu'on veut utiliser le moins parce qu'il y a deux autres axes fondamentaux. Un, la prise en charge de l'éducation des parents. Éduquer et élever un enfant qui a un trouble de l'attention n'est pas...
Ça s'apprend.
Ça s'apprend. Par exemple, ce n'est pas un enfant qu'on va devoir punir. Ils ne sont pas du tout sensibles à ce genre de mécanisme. La prise en charge de l'enfant est très importante, avec de l'orthophonie, une évaluation psychomotrice qui lui permet finalement d'interagir et de mettre en relation notamment l'équipe scolaire, parce que l'enseignement est différent, et l'enfant pour qu'il ne soit pas en situation d'échec scolaire, parce que c'est souvent des enfants qui peuvent être en échec et puis un peu repliés sur eux-mêmes. Mmh. Donc trois prises en charge, les médicaments, les parents et l'enfant.
Très intéressant. En tout cas, on consacrera probablement une émission à ce sujet passionnant. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et avec lui aujourd'hui, on parle de mal de dos.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Berenbaum.
Bonjour.
Alors, le mal de dos en France, hein, d'abord, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? C'est combien de personnes concernées à peu près?
Ah oui, ça concerne énormément de monde. On pense que dans une vie, en gros, il y aura bien 8 personnes sur 10 qui vont avoir un problème de mal de dos suffisamment important pour qu'ils en parlent, quoi, de leur mal de dos.
C'est plus des hommes ou des femmes en général?
Oh, c'est à peu près pareil, hein. D'accord. C'est à peu près autant les hommes que les femmes.
Et on a plus de mal au dos quand on est vieux, quand on est une personne âgée, que quand on est jeune ou pas?
Pas nécessairement. Après, c'est des causes différentes. Mais on peut avoir mal au dos, même les enfants. On oublie que parfois les enfants peuvent avoir mal au dos, les adolescents, les adultes jeunes dans certaines professions par exemple, ou bien quand il y a de la sédentarité, on en reparlera certainement. Et puis ensuite, chez des personnes plus âgées, avec de l'arthrose qui peut se manifester également à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment tous les âges de la vie.
Jimmy ?
J'ai l'impression de voir de plus en plus de patients avec des problèmes de dos. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a 30 ans, par exemple ?
Ah oui, il y en a plus qu'avant, hein, indéniablement. Et on pense que le fait qu'il y ait cette augmentation soit lié en fait à la sédentarité dans nos sociétés, qui fait que le fait de ne pas bouger...
D'être trop gros, d'avoir du surpoids aussi.
Oui,
ça joue,
également, ouais. Le surpoids va intervenir. Donc tous ces éléments, on va dire un peu nouveaux, hein, de ces 30 dernières années, va faire qu'on voit de plus en plus de mal de dos.
Et c'est une des causes d'arrêt maladie les plus fréquentes, hein, je crois.
C'est la première cause, en fait.
Oui. Hein,
c'est la première cause d'arrêt maladie, d'arrêt de travail à cause le mal de dos est vraiment une cause majeure. Les coûts, aujourd'hui, vous savez, les entreprises donnent de l'argent pour les caisses d'accidents, d'arrêt de travail, pas d'accident de travail, enfin les deux, on va dire. C'est 1 milliard d'euros par an.
Waouh,
c'est énorme. C'est vraiment énorme. Hein. Ça explique d'ailleurs pourquoi la caisse d'assurance maladie a fait une campagne et est en train de faire une campagne dessus.
Hein. Et on va en parler. Merci professeur Berenbaum. On fait que commencer cette discussion sur le mal de dos. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va voir par exemple qu'il y a mal de dos et mal de dos. Chez les jeunes, c'est souvent à cause d'un problème discal. Et quand on est plus âgé, l'arthrose est souvent la cause principale. On fera le point sur les traitements, évidemment, mais vous verrez que les médicaments sont loin d'être la meilleure solution. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous, vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors professeur, d'abord il faut quand même préciser qu'il y a mal de dos et mal de dos. Hein. C'est quoi les causes principales, les origines principales, on va dire, de cette pathologie?
Bon, donc dans la grande majorité des cas, le mal de dos, ça vient soit... des disques, vous savez, c'est ces petits amortisseurs qu'il y a entre nos vertèbres et qui parfois sont un peu gonflés, on va dire, et vont aller appuyer sur les nerfs et vont donner ce mal de dos. Ça peut être lié à de l'arthrose.
Ça, c'est plutôt chez les personnes âgées.
Chez les personnes, oui, enfin âgées, on va dire que déjà vers 40-50 ans, il peut déjà y avoir ce genre de problème. D'ailleurs, parfois, les deux sont liés. Hein. Et donc, tout ça va aboutir à ce qu'on appelle la lombalgie commune. Mais le fait d'avoir mal au dos, ce n'est pas tout le temps que de la lombalgie commune. Donc, il faut faire quand même attention. Il y a quand même des causes plus rares, mais qu'il faut quand même arriver à déceler parmi tous ces patients qui viennent et qui se plaignent du mal de dos. Par exemple, on va retrouver, en particulier chez la femme après 50 ans, une douleur très aiguë, une lombalgie très aiguë, qui peut être en rapport avec une fracture d'une vertèbre. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut passer à côté.
À cause de l'ostéoporose, par exemple.
À cause de l'ostéoporose, absolument, qui est plus fréquente chez la femme après la ménopause. Ou alors, il y a une cause également qui reste pas rare, mais enfin beaucoup moins fréquente, qui est la spondylarthrite, et qui là va provoquer un mal de dos, mais qui va réveiller la nuit vers 3 heures du matin, et en fin de compte, ça va s'améliorer au cours de la journée.
Ah oui,
le matin,
nuit.
On va être très raide pendant 1 heure, 2 heures, et puis finalement, l'après-midi, on est mieux. Ce qui est exactement l'inverse de la lombalgie commune, où au contraire, ça va s'accentuer avec les efforts.
Jimmy ?
Alors moi, je vois beaucoup de patients, notamment avec des lombalgies communes, donc la lombalgie qui n'a pas de conséquences finalement, il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Et les patients sont souvent demandeurs de plein d'examens complémentaires, au minimum la radio, et puis au mieux, comme on peut l'avoir, l'IRM. Et souvent, on a l'impression de passer pour des mauvais médecins si on refuse l'IRM. Est-ce qu'on peut dire aux gens que passer une radio ou plein d'examens complémentaires, quand on est une lombalgie commune, sans prendre appel, ça ne sert pas à grand-chose?
Il fait bien, je crois, le docteur Jimmy Mohamed. Apparemment, il ne les distribue pas comme ça.
Moi, je suis d'accord. Hein. On voit beaucoup, beaucoup de patients qui viennent. Ils ont déjà leur IRM dans la main. Et alors que finalement, eh bien, c'était inutile. Quand on a eu un épisode aigu de lombalgie, hein, une poussée de lombalgie commune, il ne faut pas aller tout de suite se précipiter pour aller faire des examens complémentaires. Il y a des fois des indications.
C'est quoi l'indication?
Les indications, ça va être par exemple si on trouve que ce n'est pas une lombalgie normale. Quand je dis normale, c'est-à-dire la lombalgie commune. On se demande s'il n'y a pas autre chose, une infection, une inflammation, enfin quelque chose d'autre. Voilà. Mmh. Ou alors si on doit faire un geste local, une infiltration par exemple. Ou bien on prévoit une intervention chirurgicale. Là, dans ces cas-là, on a besoin vraiment d'avoir l'examen. Ou alors, lorsque la lombalgie perdure. C'est-à-dire, nous, c'est 3 mois notre limite. Si la lombalgie...
Oui, 3 mois, c'est long. Vous nous laissez avoir mal au dos pendant 3 mois avant de faire une IRM.
Ah bah oui, oui, ah ouais. ça peut être le cas. Voilà,
c'est ouais, moi, j'aurais râlé. Hein,
mais... Oui, exactement. Et en fait, c'est beaucoup plus long de ne pas prescrire que de prescrire. Parce qu'il faut expliquer.
Bon, le médecin, ouais.
Ça fait partie de notre rôle en tant que médecin d'expliquer pourquoi on ne va pas prescrire un examen.
Oui, parce qu'en plus, si on fait un examen très tôt, par exemple l'IRM, on peut trouver sur l'IRM, vous me coupez si je dis n'importe quoi, des éléments qui nous font croire qu'on est malade, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec nos symptômes.
C'est anxiogène.
Donc des IRM pathologiques, mais qui ne sont pas en rapport avec des douleurs.
Absolument. Je ne connais pas un compte-rendu d'IRM qui conclut par dire tout est normal. Non, à chaque fois, il y a nécessairement des choses qui vont être écrites et qui vont être extrêmement anxiogènes. Et alors que finalement... Eh bien, ça n'aura même pas de rapport avec la lombalgie, ça n'aura même pas de caractère pathologique ou néfaste. Quoi.
Alors, on va passer quand même au traitement du mal de dos. Alors, on va commencer par les médicaments. Je crois que vous dites, vous, que les antidouleurs, les anti-inflammatoires, tous les médicaments qu'on peut avaler par la bouche, là, ça ne sert à rien.
Bah, en tout cas, on n'arrive pas à montrer dans les études que c'est supérieur à un placebo.
Ah oui.
Donc, c'est vrai que ça ne nous encourage pas beaucoup,
même le paracétamol,
à prescrire. Ah oui, oui, même, j'aurais tendance presque à dire surtout.
Ah oui.
Les médicaments. Alors, bien évidemment, là, je parle d'études. Donc, quand on compare des centaines de patients entre eux, un groupe avec placebo...
Ça peut marcher chez un patient ou un
mais
autre.
Voilà,
mais
voilà, ponctuellement, on peut très bien avoir des patients quand même qui vont répondre à l'un ou l'autre. Ça explique d'ailleurs pourquoi quand même on fait des prescriptions d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires. Mais surtout, il faut arrêter le traitement si on a le sentiment que ça n'a pas d'effet. Si vous... qui m'écoutez, vous prenez des médicaments contre la douleur depuis déjà des semaines et des semaines et vous ne voyez pas de différence, arrêtez-les.
Les anti-inflammatoires, c'est pas mieux, hein, parce qu'en plus, à long terme, c'est dangereux. Hein.
Les anti-inflammatoires, c'est pas mieux, ça a des conséquences potentielles, il faut faire attention aux effets secondaires. C'est tout est question de bénéfice-risque. S'il n'y a pas de bénéfice, vous n'aurez que les risques.
Alors vous restez avec nous, professeur Berenbaum, on va continuer à parler des traitements du mal de dos.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit sur les traitements les plus efficaces contre le mal de dos. On va parler notamment des injections de corticoïdes qui peuvent fonctionner, des séances de kiné également, et surtout du mouvement. Aujourd'hui, c'est clair, c'est le meilleur des traitements. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine. Alors avant de reprendre sur les traitements, je précise que vous êtes quand même le coordonnateur de l'initiative Ensemble contre les rhumatismes. Rapidement, c'est quoi cette initiative ?
Ensemble contre les rhumatismes, c'est une initiative qui a été lancée par l'INSERM, la Société française de rhumatologie et la Fondation Arthritis, et qui s'appuie sur une quinzaine d'associations de patients qui soutient cette initiative. C'est une initiative qui a pour but d'expliquer aussi bien au grand public qu'aux décideurs l'importance en termes de fardeau pour les patients de ce type de maladie, les rhumatismes et maladies musculo-squelettiques. C'est un grand groupe de maladies.
Et justement, les rhumatismes, c'est quoi? Est-ce qu'on compte le mal de dos dedans?
Absolument, on compte le mal de dos dedans, ainsi que l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique et plein d'autres maladies également. L'ostéoporose, ces maladies osseuses. Donc, en fait, tout ce grand groupe de maladies, il y en a plus de 120 maladies comme ça, eh bien, on ne perçoit pas toujours, en tout cas quand on est dans le grand public, on ne perçoit pas toujours ce que ça représente en termes de diminution de qualité de vie pour les patients. Donc, en fait, afin de pouvoir avoir plus d'argent pour la recherche, alors ce n'est pas un organisme qui recueille des dons, hein, mais avec ce moyen-là d'augmentation de la connaissance sur ces maladies, eh bien, on pense que les besoins en recherche sont absolument indispensables.
Très bien. Alors, on poursuit sur le mal de dos et sur ses traitements. On a parlé tout à l'heure des antidouleurs, des antalgiques et des anti-inflammatoires. On va parler quand même maintenant, vous avez dit que ce n'est pas très, très efficace et parfois ça peut être même dangereux. Par contre, les injections de corticoïdes, ça marche bien.
Oui, les infiltrations de cortisone, c'est très efficace, mais à court terme. C'est une efficacité qui va durer quelques jours ou quelques semaines. Et puis après, on revient à l'état précédent. Mais comme on agit sur une poussée douloureuse et qu'une poussée, l'histoire naturelle d'une poussée douloureuse de lombalgie, c'est quelques semaines, eh bien, ça fait passer un cap.
Oui, c'est déjà pas mal.
Et ça nous évite de prescrire des médicaments, par voie générale, les fameux anti-inflammatoires ou les opioïdes, ou le tramadol.
Vous injectez dans le dos directement.
Et donc, on injecte dans le dos directement de la cortisone, c'est pas dangereux. Et c'est pas dangereux quand c'est bien fait, quand l'indication est bien posée, bien sûr.
Jimmy ?
Le problème, c'est que ces injections se font de plus en plus rares car on ne trouve pas le produit. Les patients font des dizaines, voire une centaine. J'ai un patient qui a fait 100 pharmacies avant de trouver un traitement. Et vous dénoncez justement les pratiques des laboratoires. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe ?
Oui, non, mais vous avez raison. On a de plus en plus de mal à trouver ces produits pour infiltration. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait, il y a quelques années, plusieurs produits pour pouvoir infiltrer. Et petit à petit, par manque de rentabilité, certains laboratoires retirent leurs produits infiltratifs. Alors qu'ils fonctionnent. Mais comme ça demande des mises à jour de leur chaîne de production dans les usines, etc.
Ils arrêtent de les fabriquer.
Oui. Et en fait, en général, ce sont des multinationales. Les filiales françaises aimeraient bien garder leurs produits parce qu'ils savent que les Français, les médecins français utilisent beaucoup pour soulager leurs patients. Mais au niveau plus haut, on va dire, aux États-Unis, par exemple, ou autres, ils les utilisent moins. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est peut-être l'une des raisons également du fait qu'il y ait cette épidémie de décès liés à la prise d'opioïdes.
Bien sûr.
Eh bien,
s'ils utilisaient plus les corticoïdes,
ils se disent, après tout.
C'est pour ça qu'en France, on est peut-être épargné par cette crise des opioïdes. Enfin, épargné, ça commence un peu.
Oui,
mais
en tout cas, au moins en partie, ces traitements locaux évitent la prescription de traitements par voie générale. Donc, effectivement, on voit comme ça disparaître petit à petit ces produits infiltratifs. Et notre grande crainte, c'est qu'un jour, nous n'ayons plus de produits pour pouvoir faire ces infiltrations. Et dans ces cas-là, on va se mettre à faire comme les autres, on va dire, dans certains pays, à prescrire des traitements qui, à mon sens, sont bien plus dangereux que les infiltrations.
Créer une addiction. Alors, qu'est-ce qu'on pense, par contre, on va passer à quelque chose qui est moins dangereux, enfin, j'imagine, les séances de kiné. Les gens qui ont mal au dos, souvent, on leur prescrit des séances de kiné. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est bien d'aller voir un kiné quand on a mal au dos, quoi ?
Alors, oui, la kinésithérapie, ça fait partie du traitement qui est recommandé d'ailleurs par l'HAS, la Haute Autorité de la Santé. Pourquoi ? Parce que la kinésithérapie va encadrer la reprise d'activité physique, elle va expliquer quels sont les bons mouvements à faire dans sa vie de tous les jours, et donc tout ce qui va faire participer le patient, qui va faire en sorte que le patient va être actif par rapport à son mal de dos, va être efficace. Donc là, on rejoint effectivement la question de l'efficacité, enfin c'est pas la question, c'est la démonstration de l'efficacité la mobilité et du fait de bouger.
Et ces kinés, les séances sont efficaces chez toutes les lombalgies, c'est-à-dire la personne âgée qui aura un tassement lié à l'ostéoporose, la lombalgie commune du cadre qui ne fait pas trop d'exercice, ou celui qui aurait une sciatique invalidante, la kiné, ça marche pour tous ?
Alors on évite la kinésithérapie lorsqu'on est en poussée de lombalgie commune. D'accord.
Lorsqu'on
est en pleine poussée,
quand
on a très très mal, c'est pas le moment. De toute façon, on n'est pas réceptif au message. À ce moment-là, on a mal et donc on essaye déjà de gérer sa douleur. Bon. Mais après, en revanche, on peut. Alors, effectivement, c'est valable. Quand c'est par fracture vertébrale, là, c'est quand même un peu différent. Même si le message dans l'ostéoporose, c'est également de bouger et que l'activité physique est également tout à fait favorable pour diminuer le risque de faire après des fractures vertébrales.
On y va tous les combien chez le kiné ?
Bon, en général, une prescription classique, on va dire, c'est une à deux séances par semaine pendant quelques semaines.
D'accord. Voilà. Et je crois qu'il vous dit qu'il faut bien choisir son kiné, par contre.
C'est fondamental.
Vous m'avez expliqué des pratiques assez folles. Oui, racontez-nous.
En fait, assez souvent, eh bien, quand on questionne nos patients, eh bien, ils nous disent « oui, au moment où je suis venu, il y avait déjà deux, trois, quatre patients.
En même temps,
chacun était dans sa pièce. Et puis, il y en avait un, il avait des patchs de chaleur sur le dos. L'autre d'à côté, il avait un petit peu
de... » Il y a des kinés qui prennent plusieurs patients en même temps. D'accord.
C'est énorme, énormément. Donc, en fait, un bon kiné, c'est ce que je dis à mes patients tous les jours, un bon kiné, c'est un kiné qui prend qu'une personne à la fois. Parce que c'est pas facile hein, de prescrire de la kinésithérapie justement à cause de ça. Quand on prescrit un médicament, c'est ce qu'on donne. Quand on prescrit de la kiné, ben voilà, il faut vraiment garder ça en tête. Un bon kiné, c'est un kiné qui prend qu'une personne à la fois.
Mais on va le retenir. Alors justement, vous avez un petit peu amorcé le sujet, mais ça me permet de faire la transition sur le traitement le plus efficace contre le mal de dos. C'est donc le meilleur traitement, c'est le mouvement. C'est le nouveau slogan d'ailleurs de l'assurance maladie. C'est pas un peu un coup de com' ça pour essayer de nous dire, allez hop, on va tous vous faire, on va tous économiser des remboursements de médicaments. Allez bouger et en plus c'est gratuit quoi. Non, c'est pas ça.
Ouais. Bah. S'il n'y avait pas d'études scientifiques derrière pour prouver qu'effectivement c'est efficace, là oui, je vous dirais effectivement...
Bon, beaucoup
là,
comme c'est de l'assurance maladie, mais non, c'est prouvé.
Mais non, c'est prouvé, c'est démontré. Donc, tant mieux si en plus ça fait faire des économies. Mais c'est démontré, bien évidemment. Si là, j'ai des auditeurs actuellement qui sont en pleine poussée aiguë et on leur dit « allez hop, au travail et voilà ». Bon, là, peut-être qu'ils ne vont pas être très, très réceptifs. Ils auront raison. C'est vrai que quelquefois, quand on est en pleine poussée aiguë, là, on ne peut pas. On peut pas
bloquer, hein. On ne peut rien faire.
Nous, ce qu'on veut éviter, c'est la lombalgie qui dure. La lombalgie qui dure plus de 3 mois. Pour nous, ça, c'est vraiment un objectif. Et pour ça, il faut que le patient comprenne que ce n'est pas parce qu'il va bouger qu'il va aggraver sa lombalgie. Ça, c'est très, très important.
Mais du coup, bouger, c'est important. Vous dites, bon, évidemment, quand on est complètement bloqué, c'est pas le moment. Mais malgré tout, à la phase aiguë, c'est important et ça prévient les récidives. Et vous dites, en plus de ça, on évite la chronisation, c'est-à-dire de passer dans le stade de maladie de plus de 3 mois.
Oui, en phase aiguë, on ne donne plus le message de dire, maintenant, mettez-vous au lit pendant 3 jours. Hein. C'est fini,
ça. Debout, allez,
on leur dit, bon, si, faites ce que vous pouvez. Et si vous pouvez, c'est pas parce que vous allez marcher que vous allez aggraver votre mal de dos.
Mais c'est pas le moment d'aller courir, voilà. Par exemple. Le footing, c'est pas la bonne idée.
Non, de toute façon, la personne, elle pourra pas, elle aura trop mal. Mais en revanche, on ne lui dit plus, surtout mettez-vous, avant c'était ce qu'on disait. Hein.
Sur une planche en bois.
On disait, allez hop, mettez-vous au lit et puis bougez plus. Maintenant, c'est plutôt le message, faites ce que vous pouvez et puis ça sera très bien. Hein, donc c'est vraiment important.
Quel type d'exercice vous conseillez par exemple pour vos patients un peu chroniques, on va dire, ceux que vous voyez, quand on va voir le rhumatologue, c'est déjà qu'on a peut-être un peu plus mal que les autres ou plus mal depuis plus longtemps. Est-ce qu'il y a des petits exercices qu'on peut faire à un moment donné dans la journée, je ne sais pas, pour renforcer ces muscles du dos, vous en avez un ou deux comme ça?
Franchement, c'est d'abord à adapter, à personnaliser, hein, parce qu'une personne, ce n'est pas qu'un mal de dos. Hein. Une personne, ça peut être également un problème cardiaque, un problème pulmonaire, des soufflements, etc. Donc il faut tout prendre en compte pour prescrire de l'activité physique. Oui. Hein. Je rappelle que maintenant, on peut prescrire de l'activité physique. Elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale, ça viendra peut-être un jour. On l'espère d'ailleurs, hein, parce que c'est bon, pas uniquement pour le mal de dos, mais en tout cas, ça peut se prescrire. En fait, le principal, c'est de ne pas rester assis déjà. Hein. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la sitting disease, la maladie de rester assis. C'est maintenant identifié comme une maladie.
Oui.
Donc, toutes les heures, au maximum, levez-vous. Vous êtes dans un bureau, vous êtes devant votre ordinateur, forcez-vous à vous lever 5 minutes toutes les heures. Déjà, ça, c'est un message qu'on peut donner.
D'accord.
Et puis ensuite, eh bien, ça va être fonction de
un
ce qu'on
natation,
est capable de
faire.
Un peu de
natation pour muscler son
absolument.
Dos, tout ça. D'accord.
Mais y a pas
et vous en avez vu des patients que vous avez réussi à remettre en mouvement et qui n'ont plus besoin de médicaments, par exemple?
Ah oui, énormément.
En consultation,
oui. Ah oui, en consultation, absolument. On a beaucoup de patients comme ça, hein, qu'on arrive à...
Et est-ce qu'on arrive à opérer un peu moins, par exemple, l'hernie discale en pratiquant une activité physique ou finalement ça n'a aucun impact sur l'hernie qui donnerait une sciatique, par exemple?
J'ai pas de chiffres pour pouvoir dire s'il y a moins d'opérations par rapport à ça. Mais clairement, si les patients vont mieux, ils n'ont plus de raison d'aller se faire opérer.
Mais on opère toujours les hernies discales. Hein, ouais.
Oui, alors attention, on n'opère pas les hernies discales. On opère les personnes qui ont une lombosciatique ou une lombocruralgie, c'est-à-dire une autre douleur un peu dans la jambe, et qui, malgré un traitement médical, continuent à avoir mal. Et quand on leur fait l'examen, on voit qu'il y a une IRM, on voit qu'il y a une hernie discale. Mais attention, on n'opère pas les hernies discales, parce que le fait de dire on opère une hernie discale voudrait dire qu'il suffit de faire une IRM, de voir une hernie discale et hop, pour la retirer.
C'est pas le cas.
Et ça, c'est surtout le message inverse qu'on donne.
Juste en quelques mots pour terminer, on va parler un tout petit peu du futur. Est-ce que la recherche, elle avance pour nous trouver quelque chose qui pourrait peut-être nous guérir du mal de dos définitivement?
Oui, bon, alors, on aimerait vraiment bien avoir ce traitement miracle. Je ne pense pas qu'il existe.
Mais la piste la plus prometteuse,
c'est quoi?
En dehors
de l'activité physique, c'est vrai qu'actuellement, par exemple, en médecine régénérative, il y a des pistes, par exemple, d'injection de cellules souches dans le disque entre les vertèbres, qui peut se faire pour des formes bien particulières de mal de dos. Mmh. On a actuellement un essai en cours avec ce type d'injection.
Dans votre
de
hôpital,
cellules,
hein, je crois, en partie.
Oui, dans notre service, qui est en cours. Ça s'appelle l'essai Respine, c'est un essai européen. On verra bien, hein, puisque c'est une piste. Donc, on verra. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus croire que ça y est, ça sera le miracle. Hein. mais ça peut être une piste intéressante pour certains mal de dos.
Merci beaucoup, professeur Berenbaum. Merci d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur les traitements qui fonctionnent vraiment pour en finir avec le mal de dos.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on vous propose une sorte de vrai-faux sur les yaourts. En quoi sont-ils bons pour notre santé? Comment bien les choisir au supermarché? On vous donnera plein de conseils. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des bienfaits des yaourts. Sont-ils vraiment aussi bons qu'on le dit pour notre santé, sur notre santé digestive surtout? Savez-vous comment les choisir d'ailleurs? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, on écoute son micro-trottoir.
2 à 3 yaourts par jour. Quasiment tous les repas, midi, soir et parfois au petit déjeuner.
J'ai du mal à terminer mon repas si j'ai pas mon petit yaourt à la fin, donc même au petit déj, ouais, en dessert absolument.
J'aime bien le goût, c'est frais. Je prends des brassées évidemment parce que sinon c'est moins agréable.
J'aime pas le lait, etc. Donc c'est le seul moyen pour moi en tout cas de manger des produits laitiers parce que je suis pas trop fromage tout ça, donc je compense par les yaourts.
Je fais des yaourts au soja ou au lait de coco parce que je ne veux pas manger de produits laitiers.
Yaourt nature, yaourt assez simple. Avec des morceaux de fruits ou des choses comme ça, et on évite les desserts type riz au lait, crème caramel, danette, chocolat, vanille, caramel, mousse au chocolat, on reste dans le simple.
Pour moi, effectivement, ça agit sur les os. Après, il y a des yaourts qui vantent les mérites des oméga, donc là, pour moi, c'est le sang.
Le calcium aussi qui est bon pour les os, qui aide à fortifier les os.
Si, c'est bien pour la flore intestinale.
Alors d'abord Jimmy, quand on parle de yaourt, on va remettre les choses au clair tout de suite. Ça comprend pas les crèmes dessert au chocolat, tout ça, voilà. Parce qu'en fait, au supermarché, finalement, dans le rayon produits laitiers, les vrais yaourts, il y en a qu'une sorte. Hein.
Oui, et les yaourts ne contiennent pas d'oméga,
non, rien.
Machin, truc,
ni 8, ni 18,
1, 2, 10, tout ce qu'on veut, il y en a pas. Mais effectivement, alors il y a une seule sorte qu'on retrouve sous beaucoup de marques différentes, mais globalement, tout ce qui est blanc n'est pas un yaourt.
Ah.
Les petits suisses ou les fromages blancs ne sont pas considérés comme des yaourts. Un vrai yaourt, c'est constitué de lait, qu'il soit entier ou demi-écrémé, et de ferments lactiques. Alors, ça contient ce qu'on appelle des lactobacillus. Alors, attention, accrochez-vous.
Ouais.
Bulgaricus.
On voit, vous avez fait médecine,
ah
c'est
oui.
beau. Hein.
Et ouais. des streptococcus thermophilus.
Bah là, en fait, il nous dit n'importe quoi,
non,
je suis sûr.
Vous pouvez googliser tout ça, c'est vérifié. Et tout ça, ça permet de prendre, en fait, de créer un yaourt. En gros, les bactéries doivent rester vivantes dans le produit fini à une dose d'au moins 10 millions de bactéries par gramme de yaourt. Bref, il y a une définition claire et consensuelle. Et les crèmes dessert, ce n'est pas un yaourt.
Ah bah zut alors. Et alors, on les choisit lesquels dans les yaourts nature, là, j'imagine?
Alors, exactement. L'idéal, c'est qu'ils soient le plus basique possible. On peut toujours en prendre des brassés ou les yaourts au lait entier en pot de verre. Mais il faut que ce soit nature et de préférence bio, si on peut se le permettre. Et un vrai yaourt n'a jamais un vrai bon yaourt n'est jamais aromatisé ou sucré. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'additifs à l'intérieur. L'exemple typique, c'est les yaourts au sucre de canne.
Ah oui, on a l'impression qu'ils sont tout blancs, tout beaux, blanc, tout nature.
Mais ils sont bourrés de sucre, c'est non calorique. Donc, vous perdez tout l'intérêt du yaourt car vous avez finalement beaucoup de sucre.
Alors, c'est quoi l'intérêt nutritionnel vraiment du yaourt? Ça nous apporte quoi?
Alors, c'est riche en protéines et surtout en probiotiques. Ces probiotiques, elles sont favorables et utiles dans la digestion et tapissent notre flore intestinale et notre flore digestive.
Toujours le microbiote,
exactement,
c'est ça?
Exactement, le microbiote. Et donc, dans certaines pathologies, donc notamment dans le côlon irritable, eh bien, on pourra améliorer les symptômes et réduire la durée des diarrhées, notamment lorsqu'on a eu une infection virale comme une gastro-entérite.
Et certains prétendent que les yaourts, ça aide à maigrir. C'est vrai ça ou pas?
Alors, ça serait si manger des yaourts donnerait la ligne.
Moi, j'en mange plein, là, depuis que j'ai entendu ça, marche
mais
pas.
Non, c'est pas vrai. À une époque, c'est vrai, certains experts disaient que du fait de la forte teneur en calcium, il permettrait de garder une bonne ligne, c'est faux. Mm. En revanche, on sait que c'est un aliment qui est plutôt intéressant, notamment pour ceux qui veulent faire attention à leur poids, parce que son index glycémique est plutôt bas et les yaourts sont plutôt rassasiants. Donc, quand on a une petite faim, mieux vaut manger un yaourt que finalement une barre céréalée ou une confiserie.
C'est bon pourtant, les confiseries. Bon. Et quand, il faut en manger combien par jour pour faire bien?
Alors, minimum 25 par jour.
Ah ouais, c'est beaucoup. Voilà. Non, alors, donc là, c'est Jimmy qui dit n'importe quoi, donc c'est combien en vrai?
Un ou deux par jour peut suffire largement.
Pour les adultes,
exactement,
quoi,
pour les adultes. En revanche, on sait que chez les personnes âgées qui sont dénutries, qui ont tendance à un peu moins s'alimenter, augmenter un petit peu ses apports avec ses produits laitiers permettrait d'apporter un peu plus de calcium et de protéines. Donc là, ça peut aider, notamment chez les personnes âgées, d'en prendre un peu plus que les autres.
Et ce qui est peu connu, c'est que les intolérants au lactose dont on parlait au début de l'émission, ils peuvent en manger certains yaourts.
Oui, c'est vrai. Plusieurs études scientifiques ont montré que les yaourts peuvent être consommés par des personnes intolérantes au lactose sans trop de soucis. En fait, les ferments qu'ils contiennent dans ces yaourts produisent eux-mêmes les lactases. Les lactases, c'est ce qui permet de digérer le lactose. Mmh. Et donc, ces enzymes qui sont absentes chez les intolérants sont finalement plutôt tolérées, permettent de mieux digérer le lactose chez tout le monde.
Et donc pour les enfants par contre, ça reste hyper important, hein, les yaourts, on est d'accord rapidement?
Oui, effectivement, pour le calcium, un pot de yaourt fournit entre 140 et 180 mg de calcium. C'est déjà 23% des apports conseillés pour un enfant de 6 ans.
C'est super. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la question sexo. Aujourd'hui, notre sexologue Catherine Blanc, avec elle, il sera question de la sexualité de nos parents. Pourquoi est-ce si tabou? Pourquoi entrevoir ce qui se passe dans leur chambre à coucher peut même en choquer certains durablement? Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle arrive dans ce studio pour cette dernière séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste. Vous êtes psychanalyste à Paris, Catherine. Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'Élodie, 40 ans, qui nous écrit de Saint-Étienne. Pardon, je vous la lis. Lorsque j'étais adolescente, j'ai trouvé un godemiché dans la table de chevet de mes parents. Ça m'a dégoûtée. Aujourd'hui encore, cette pensée me met mal à l'aise. J'ai pour ma part une sexualité très classique, ce que me reproche mon mari. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, apparemment, Élodie, elle a été presque traumatisée, on dirait, par cette découverte. C'est normal que ça l'ait autant choquée? C'était quand même il y a longtemps, hein, dit qu'elle a 40 ans et que c'est arrivé quand elle était adolescente.
Ça s'est passé quand, justement, elle s'interroge et se construit dans sa sexualité. Alors, encore une fois, ce n'est pas la faute du godemiché, encore moins la faute du godemiché de sa mère ou de la sexualité de sa mère.
Pour être à sa grand-mère, que ce serait pareil.
Exactement. En fait, ce n'est pas l'objet. Ce qui pose problème, c'est d'être rentré dans l'intimité, avoir eu une idée,
une vision
de la sexualité parentale. Parce que, évidemment, que tous les enfants et les ados ont une curiosité, surtout les enfants d'ailleurs, ont une curiosité de ce qui se passe entre papa et maman, tout en espérant qu'il ne se passe absolument rien. Mmh. Et là, le fait qu'il y ait un godemiché, c'est qu'il est une...
Il se passe quelque chose.
Voilà, non seulement il se passe quelque chose, mais c'est en plus comme avoir vu un vrai pénis. Même quand bien même, ça n'en est pas, parce que c'est pas un jouet sexuel, c'est pas un sextoy, c'est un godemiché avec tout ce que ça raconte.
C'est pas un sextoy, un godemiché?
Si, non, mais je veux dire par là, c'est qu'il est... il n'est pas symbolique.
Ah oui,
il est dans une lecture du réel d'un pénis.
Pourquoi on peut être autant marqué par des détails de la vie sexuelle de ses parents?
Parce que, en fait, l'enfant est extrêmement ambivalent. Il est à la fois dans le souhait de savoir ce qui se passe dans la relation intime des parents, parce qu'il se cherche lui-même. Donc, il essaie de savoir qu'est-ce que lui pourrait jouer. Il est dans une envie de séduction de papa ou de maman, selon qu'il est garçon ou fille, et selon le temps de son développement. Et tout d'un coup, quand il se dit « je serai une fille comme maman ou un garçon comme papa », évidemment que la sexualité est une façon de se dire ce que ce sera être un adulte. Et sauf que, évidemment, ça, on veut pouvoir l'élaborer, mais on ne veut pas imaginer de pouvoir y participer. Et l'enfant se coince avec son propre imaginaire. C'est-à-dire, plus il a imaginé papa et maman faire l'amour, ou plus il a imaginé ce que je pourrais désirer quand je serai grande, plus il se mêle et s'en mêle à la sexualité parentale, ce qui lui cause une angoisse oedipienne, une angoisse de passer un interdit qui est l'interdit de l'inceste.
Jimmy ?
Et elle fait un lien direct entre godemiché et sexualité classique, plutôt une opposition. Sous-entendu, les femmes qui utiliseraient des godemichés auraient une sexualité débridée. Est-ce qu'on peut conclure ça?
En fait, d'abord, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un godemiché, il y a une sexualité débridée, mais comme elle imagine que la mère joue, elle ne fait pas que faire l'amour, c'est-à-dire pour faire des bébés, c'est vraiment une sexualité érotisée, parce qu'avec un godemiché, on n'a jamais fait de bébé. Donc, c'est vraiment une sexualité, elle oppose le classique qui est à but de procréation potentielle, avec une sexualité qui n'a pas lieu d'inclure la procréation. Donc elle, pour s'assurer de ne pas vivre la sexualité de sa mère, donc avec son père, donc un truc, un méli-mélo, un imbroglio insupportable, eh bien, elle a sclérosé sa sexualité dans un cadre extrêmement maîtrisé.
Un peu plan-plan, un peu tranquille, quoi, apparemment.
Voilà, en tout cas, qui sort du jeu pour ne pas être en train de jouer à des choses qui... Parce que vous comprenez bien que si elle se met à jouer érotiquement, et notamment avec Godemiché,
ça lui rappelle sa mère.
Elle aurait peur tout d'un coup de les appeler fantasmatiquement dans son acte sexuel.
Et son mari, justement, apparemment, il lui reproche d'être un peu trop coincé. Vous croyez vraiment que ça a un lien avec ce traumatisme d'adolescente?
Alors, je ne crois pas. Je le suppute, puisqu'elle elle-même le pose comme étant dans l'équation. Donc, ce n'est pas moi qui fais l'équation, c'est elle qui le fait toute seule. Mais de fait, il y a quelque chose à voir là-dedans, puisqu'elle le met là-dedans. Puisqu'elle a encore cette idée d'être hantée. Vous savez, il y a des gens qui sont hantés par par l'interdit d'un parent, qui d'ailleurs, quand ils font l'amour, ont le sentiment que le parent rentre et dit « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» et du coup, qui se surveille.
Et la solution, ce serait pas d'en parler à sa mère, alors c'est peut-être une vieille dame aujourd'hui, mais lui dire « j'ai trouvé ça » et voilà, on brise la glace sur ce sujet et puis c'est réglé, non ?
Non, ce serait à peu près pareil que recommencer à voir maman, et puis en plus maman serait ou à se défendre ou à raconter « ah oui, c'était formidable avec ton père
oui, ».
Je ne suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée. Non, non, je crois que c'est se confronter elle, et peut-être effectivement en parlant plutôt alors à des gens qui...
une sexologue qui, ou
voilà,
un psychothérapeute. Qui
seraient de cet ordre-là, voilà, pour justement laisser au passé, parce qu'elle continue à son insu à érotiser quelque chose. En fait, très paradoxalement, elle veut une sexualité extrêmement normée pour se protéger de la sexualité parentale, mais en la gardant en souvenir permanent, elle l'érotise systématiquement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez évidemment avec nous. L'équipe est sauvage arrive 16h, 18h. On va rire et découvrir en compagnie d'un invité exceptionnel aujourd'hui qui sort un nouvel album. Vincent Delerme sera avec nous en public, s'il vous plaît, comme chaque vendredi désormais.
Merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite une bonne émission. Allez surtout, restez sur Europe 1.